Nous avons considéré au cours des deux premières soirées quelques aspects du témoignage que Dieu, dans sa grâce et sa condescendance, plaît à rendre sur cette terre, en évoquant successivement le témoignage rendu par la création, témoignage muet mais éloquent qui rend l'homme inexcusable devant son Dieu, le témoignage rendu par les Écritures que nous sommes appelés à sonder et qui nous entretiennent de Dieu lui-même, de son Fils bien-aimé, de ses pensées combien précieuses, le témoignage qu'il a confié à des hommes dans les cours des temps, premièrement dans la longue période qui précède la venue du Seigneur sur la terre, tant d'hommes, tant de citations dans l'Écriture, de ceux qui ont été des témoins et qui ont, dans la mesure de la révélation qui leur a été donnée, été rendus par la bonté de Dieu en mesure de manifester des caractères ou d'accomplir des services qui témoignent par anticipation, mais d'une manière combien précieuse, de Christ, de son œuvre et des résultats glorieux acquis par celle-ci. Les prophètes occupent une place particulière et la parole nous dit qu'ils ont rendu témoignage par avance des souffrances qui devaient être la part du Seigneur et des gloires qui suivraient. Nous avons été occupés d'une manière particulière sous cet aspect-là du septuple témoignage rendu par Jean le baptiseur, le précurseur du Seigneur, ce plus grand des prophètes, qui a eu le privilège de connaître, de voir celui qui l'annonçait. Notre attention a également été retenue par le témoin par excellence, le Seigneur lui-même, qui seul porte ce titre de témoin fidèle et véritable, qui, durant toute sa vie ici-bas, n'avait pas d'autre propos devant lui que de faire toujours les choses qui plaisent à celui qui l'avait envoyé, et qui a pu sceller lui-même son ministère au terme de celui-ci en disant « Je t'ai glorifié » et après l'avoir glorifié sur la terre dans sa vie, il s'est avancé pour le glorifier parfaitement par son œuvre dans sa mort. Le dernier aspect qui nous a déjà occupés est le témoignage rendu par Dieu lui-même à l'égard de son Fils bien-aimé et les diverses portions qui ont été placées devant nous témoignent de la mesure dans laquelle Dieu le Père a trouvé, trouve ses délices dans son Fils bien-aimé. Ce Fils qui constitue la première pensée divine, ce premier objet de l'Esprit de Dieu est ce fil conducteur de la parole tout entière. Les Écritures nous en parlent des siècles avant sa venue. Le témoignage de Dieu en est donné avant sa naissance, à l'occasion de celle-ci, après sa naissance, au cours de son ministère, avant son œuvre et après celle-ci, que de manifestations, de déclarations de l'Écriture témoignent de ce que Dieu se plaît et s'est plu à faire pour son Fils. Nous aimerions consacrer cette troisième et dernière soirée à l'évocation des deux autres témoignages, si l'on peut les classer ainsi, le sixième et le septième, à savoir le témoignage rendu par le Saint-Esprit, et alors le témoignage confié aux croyants pendant l'économie présente, après quoi nous évoquerons simplement le témoignage qui sera rendu par les croyants de la période apocalyptique. Au sujet du témoignage confié ou rendu par le Saint-Esprit, nous lisons quelques passages dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14. Jean, chapitre 14, verset 25. « Je vous ai dit ces choses demeurant avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. » au chapitre 15 et au verset 26, « Quand le Consolateur sera venu, lequel moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, celui-là rendra témoignage de moi. » Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, le verset 10, « C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. » Verset 14, « Car par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés, et l'Esprit Saint aussi nous en rend témoignage. » Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 15e, du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, « Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de rechef dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » L'Esprit, personne divine, est de toute éternité, nous le savons. Il en est déjà fait mention à l'ouverture des Écritures, au premier chapitre de la Genèse, qui nous déclare qu'il planait sur la surface des eaux. Cet esprit n'a cessé d'œuvrer et dans la vie d'Israël, nous trouvons de nombreuses mentions, non pas de l'Esprit Saint ou du Saint-Esprit, qui se trouve dans le Nouveau Testament, mais de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de l'Éternel, qui a agi, œuvré par les canaux de son choix, pour qu'il puisse accomplir ce que la grâce de Dieu leur avait confié. C'est ainsi qu'on trouve un Josué qui a œuvré par la puissance de cet Esprit qu'il avait rempli. On trouve un Betsalel qui a été mis au bénéfice de cette action de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de l'Éternel, qui lui a donné toute sagesse pour accomplir la construction de l'arche, l'arche du témoignage, l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel. Ainsi donc, dans l'Ancien Testament déjà, nous voyons cet Esprit qui saisit des hommes de Dieu et qui leur donne la sagesse et les directions divines pour accomplir ce que la bonté de Dieu leur avait confié. Mais la période de l'Église, l'économie présente, est mise au bénéfice d'une grâce qui lui est exclusive, à savoir que le Saint-Esprit est descendu pour habiter sur la terre. Et où habite-t-il? Il habite en quelque sorte là où l'œuvre de Christ lui permet d'élire domicile, à savoir dans les croyants, et dans les croyants seulement, et dans la maison de Dieu. Comme nous l'avons lu dans ces quelques passages de l'Évangile de Jean, auxquels on aurait pu en ajouter beaucoup d'autres, le Seigneur, laissant la scène de ce monde, communique aux siens, le leur dit au début du livre des Actes, qu'ils doivent rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent cette puissance d'en haut, qu'il leur accordera d'être des témoins, et ceci après l'élévation du Seigneur dans la gloire. Le Saint-Esprit n'est pas venu habiter sur la terre lorsque le Seigneur était présent ici-bas. C'est après l'élévation, après l'exaltation du Seigneur, lequel s'est assis à la droite de Dieu, Dieu lui-même l'ayant invité à occuper cette place d'honneur comme garant d'une rédemption obtenue, « Assieds-toi à ma droite ». Et cela jusqu'au jour où il accédera à son propre trône, Dieu constituant pour lui le marchepied par lequel il y accédera, et qui est fait par ses propres ennemis. Et c'est après l'exaltation du Seigneur, son élévation, selon Actes 2, 33, que Dieu envoie le Saint-Esprit qui est répandu sur la terre. Et il est présent ici-bas, et chaque racheté du Seigneur a le privilège d'avoir en lui-même cet hôte divin. Il habite donc dans le croyant, et il habite par cela dans l'assemblée. C'est un privilège qui est propre à l'économie présente. Ce n'était pas le cas dans l'ancienne économie sous l'ancienne alliance. Le Saint-Esprit n'habitait pas dans le peuple d'Israël. Et nous savons bien que selon ce qui nous est dit dans l'Écriture, que lorsque les saints seront enlevés de la scène présente à la venue du Seigneur, que nous attendons lorsque l'Église ou l'Assemblée sera enlevée à la rencontre du Seigneur en l'air, celui qui retient le Saint-Esprit sera également enlevé ou retiré d'ici-bas sous la forme actuelle d'habitation ici-bas et réintégrera, si on peut s'exprimer ainsi, sa demeure céleste. Mais il nous est dit que l'Esprit est toujours avec nous, donc l'Esprit continuera à œuvrer, il produira la louange des saints glorifiés, et dans une période qui est future encore, à savoir la période dite apocalyptique, c'est-à-dire après l'enlèvement des saints à la venue du Seigneur et avant l'établissement du règne millénaire, le Saint-Esprit agira. Et c'est ce que le prophète Joël et d'autres prophètes annoncent comme étant cette pluie de la dernière saison et qui produira un travail de repentance, amenant ceux qui ont été laissés ici-bas mais qui n'ont pas bénéficié de l'évangile de la grâce prêchée aujourd'hui, qui reconnaîtront le Seigneur comme étant celui qui a été rejeté et qui a été crucifié, et qui se lamentant sur lui comme on se lamente sur un fils unique, constitueront ce résidu. Et ce sera le travail de ce Saint-Esprit qui produira cette repentance, les amenant aux pieds de celui qui a été rejeté. Et l'Esprit-Saint, bien sûr, demeure éternellement. L'Esprit-Saint, donc, après l'élévation du Seigneur à la droite de Dieu le Père, et selon la scène qui nous est écrite au deuxième chapitre du livre des Actes, est descendu ici-bas. Au jour de la Pentecôte. Il est peut-être utile de distinguer la présence et l'action du Saint-Esprit dans le croyant individuellement et l'action et le but atteint par la descente du Saint-Esprit constituant la maison de Dieu, l'ensemble des croyants appelés le corps de Christ. Nous avons vu dans ce passage que nous avons lu dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10 que notre rédemption et notre justification, notre sanctification a pour origine la volonté de Dieu. Car la parole le dit par ailleurs, c'est par cette volonté, et Dieu veut, c'est une volonté d'amour qui est liée au plan éternel de Dieu, selon lequel il voulait s'acquérir une famille et avant toute chose faire des noces pour son fils. L'origine de toutes les bénédictions qui parviennent à l'homme, c'est la volonté de Dieu. Le moyen par lequel ces bénédictions nous sont communiquées, c'est l'offrande du corps de Jésus-Christ, ce que nous venons de lire. Et la puissance qui en rend témoignage, c'est le Saint-Esprit. Il y a donc en rapport avec les bénédictions qui sont notre partage moyennant la foi, il y a la volonté de Dieu, il y a l'œuvre de Christ et il y a le témoignage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage au Seigneur. Et peut-être faut-il lire un verset au chapitre 16 de Jean qui nous montre qu'il rend témoignage aussi à l'égard de ce monde. Au verset 7 du chapitre 16 de Jean, « Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je m'en vais au Père, à mon Père, et que vous ne me voyez plus, de jugement parce que le chef de ce monde est jugé. » Si, comme nous venons de dire, le Saint-Esprit est cet hôte divin qui vient habiter dans le croyant et dans l'Assemblée, il a également une mission qu'il accomplit face à ce monde et qui revêt, comme nous venons de le lire, trois caractères bien liés et bien distincts. Premièrement, envers le monde pour le convaincre de péché et de justice et de jugement. De péché, nous l'avons lu, parce qu'il ne croit pas en moi. Et on peut dire qu'à l'égard de l'incrédule, c'est la première activité, la première action du Saint-Esprit dans son âme, c'est de le convaincre de péché. C'est bien, nous l'avons vu il y a quelque temps ici, la première chose que l'homme loin de Dieu et sans Dieu doit connaître, apprendre et réaliser et reconnaître devant Dieu son état de péché. Et c'est là l'action de l'Esprit, convaincre de péché. Mais ici, bien sûr, la pensée va jusqu'à l'évocation de sa culpabilité quant à la réjection et la crucifixion du Seigneur. C'est ce que le monde a fait. Le convaincre de justice, c'est-à-dire que le Seigneur étant élevé à la droite de Dieu, assis à ta droite, place qui témoigne de la pleine satisfaction de Dieu à l'égard de son œuvre, cette justice de Dieu est démontrée précisément d'une manière éclatante par la position qu'occupe le Seigneur actuellement auprès du Père. Et de jugement, l'œuvre de Christ démontre que ce monde est jugé et que celui qui en est le prince a été condamné, le serpent a eu la tête brisée. Ceci à l'égard du monde. Mais comme nous l'avons déjà cité, le Saint-Esprit agit donc dans le croyant, à titre individuel. Il habite en lui. Que va faire ce Saint-Esprit? Que va-t-il produire dans la personne du racheté? De quoi va-t-il rendre témoignage dans la personne du croyant? Il va témoigner, prenant les choses de Christ pour les lui communiquer, les appliquer à son cœur pour lui en donner une pleine conscience et une heureuse jouissance. Il va amener ce croyant à lui faire jouir des effets de l'œuvre de Christ et de la personne surtout qui a accompli cette œuvre. Le Saint-Esprit ouvre l'entendement. Cela nous est démontré ne serait-ce que par les disciples qui, lorsqu'ils cheminaient avec le Seigneur ici-bas, avant donc que l'œuvre soit accomplie et que le Saint-Esprit soit envoyé sur la terre, les disciples ne comprenaient pas. Même si le Seigneur leur posant la question « Avez-vous compris toutes ces choses ?» ils disaient « Oui, Seigneur. » Mais ils n'avaient pas pu percevoir l'enseignement, ils n'avaient pas l'Esprit. Mais ces mêmes disciples, après l'œuvre de la rédemption, après la réception du Saint-Esprit, démontrent par les enseignements qu'ils donnent qu'ils sont entrés en raison de l'Esprit qui leur a ouvert les yeux, ouvert l'entendement et la compréhension, qu'ils pénètrent alors, en raison de ce secours divin qu'est le Saint-Esprit, les pensées de Dieu. Et comment comprendrions-nous, nous-mêmes, les enseignements typiques, allégoriques, figurés de l'Ancien Testament, si nous n'avions pas le Saint-Esprit? Et nous devons bien constater que le non-croyant qui ouvre de telles pages de l'Écriture, pour lui, ces choses demeurent étrangères. Il ne peut pas les saisir. Il faut le Saint-Esprit. Et ceci nous fait comprendre l'action combien précieuse et bénie pour nos âmes de l'action du Saint-Esprit qui, comme la parole nous le dit, prend les choses qui sont de Christ pour nous les communiquer et nous accorder de les saisir. Il nous accorde de jouir du pardon dans une mesure que seul l'Esprit peut donner. Il peut nous accorder de jouir de celui qui accomplit l'œuvre. Et si nous avons à être remplis de bonheur en étant occupés du salut et de la rédemption, nous le serons plus encore en étant occupés du Sauveur et du Rédempteur. Et c'est ce que l'Esprit veut proposer à nos cœurs, à nos affections. Il nous fera comprendre notre justification, notre sanctification, c'est-à-dire notre mise à part pour le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui propose ces choses et qui veut les rendre effectives, présentes dans nos cœurs et qu'il y en ait des résultats pratiques dans notre marche. C'est Saint-Esprit aussi, nous est-il dit, qui nous scelle. Nous connaissons bien cette expression de l'Épître aux Éphésiens, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le sceau du Saint-Esprit, si ce n'est la marque d'appartenance à Christ? Une marque de propriété, nous sommes au Seigneur. Et nous sommes scellés, nous est-il dit, pour le jour de la rédemption. S'il est dit pour le jour de la rédemption, nous comprenons bien que c'est une rédemption future qui se rapporte à celle de nos corps. Nos corps ont été achetés par la grâce de Dieu. Il en est fait le temple de cet esprit. Nos pauvres tentes, que sont nos corps faibles et encore appartenant à cette première création, sont propriété du Seigneur. Il les a achetées, s'ils ne sont pas encore rachetés, ils lui appartiennent. Et dans sa grâce, il en fait le temple du Saint-Esprit. Nous avons, comme rachetés du Seigneur, le privilège d'abriter en nous-mêmes cet hôte divin. Et nous comprenons alors l'exhortation « Glorifiez donc Dieu dans votre corps ». C'est bien le mobile, sans doute, un des mobiles qui doit nous inciter à glorifier le Seigneur dans notre corps, tel qu'il est maintenant, car c'est dans ce corps-là que le Saint-Esprit habite, et la grâce de Dieu en fait le temple. En raison de quoi, notre corps, si nous devons quitter cette terre avant la venue du Seigneur, ne sera pas jeté dans la terre, mais il est semé. Il y a, à l'égard de cette tente, bien que fragile, et soumise aux conséquences du péché encore, puisque leur rédemption n'est pas réalisée, il y a une intention de l'Esprit, pleine de délicatesse et de respect à l'égard de ce temple, qui a abrité cet hôte divin, il est semé. Alors que tous les réprouvés, tous les condamnés, que ce soit des hommes, que ce soit le Satan lui-même, ils sont jetés. Le Saint-Esprit nous accorde également par ce sceau de jouir de notre relation vitale et filiale avec le Seigneur et avec Dieu lui-même. Il rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est bien cela qui procure aux rachetés les certitudes. Ce Saint-Esprit œuvrant en nous-mêmes, de la part du Seigneur, prenant de ce qui est à lui et de ce qui résulte de son œuvre, nous accorde de jouir d'une manière libre. Nous n'osons pas dire parfaite, parce que nous sommes limités dans notre capacité, mais il veut que nous jouissions pleinement des effets de l'œuvre de Christ. Et il rend témoignage avec notre esprit d'une relation dans laquelle la grâce de Dieu et l'offrande du corps de Christ nous a introduits. Nous le répétons, la volonté est à l'origine, le moyen c'est l'offrande de Christ lui-même, et le témoignage qui est rendu à ces choses, c'est le Saint-Esprit. Nous comprenons alors cette invitation, cette exhortation souvent répétée dans la parole, que cet esprit ne soit pas attristé, qu'il ne soit pas contristé, qu'il ne soit pas éteint, mais que son action puisse être sans cesse active en nous-mêmes pour nourrir nos âmes. Nous serons par cela gardés de tant de choses. Le Saint-Esprit entretient la communion de nos âmes avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit est sans doute attristé, affligé, lorsque par l'une de nos défaillances, malheureusement si fréquentes, la communion est altérée, voire parfois interrompue. Le Saint-Esprit peut agir en accord avec une communion goûtée dans la proximité de nos âmes qui jouissent du Seigneur lui-même. Et le Saint-Esprit est un Saint-Esprit par lequel il nous est accordé de marcher. Nous connaissons l'expression de l'Épître aux Galates, « marcher par l'Esprit ». On peut marcher par la chair. Et nous ne sommes pas à l'abri d'un tel écueil comme croyants. Mais nous sommes invités à marcher par une puissance qui est en nous et qui veut nous conduire. C'est un Esprit Saint qui nous conduit dans un chemin de sainteté, marcher par l'Esprit. Nous réalisons quelque peu, mais bien imparfaitement, la grâce qui nous est faite d'avoir en nous-mêmes, dans nos corps, un tel hôte, le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est un esprit de promesse et pour nous les arts de notre héritage. Il nous accorde de jouir déjà par anticipation d'un héritage qui n'est pas un héritage corruptible terrestre comme était celui d'Israël vers lequel il s'acheminait, mais un héritage incorruptible. Un héritage qui est conservé pour nous dans les cieux, nous dit l'apôtre Pierre, et pour lequel nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi. Les arts de cet héritage, il prend déjà de ce qui est de Christ, il prend de ce que tout ce qu'il veut nous donner et qui sera notre éternel et céleste partage pour nous en faire jouir déjà présentement. Nous pouvons bien demander dans nos prières individuelles que le Seigneur nous accorde de jouir de ce que le Saint-Esprit se plaît et veut nous communiquer. De telle manière qu'il n'y ait rien dans nos vies chrétiennes qui constitue une entrave, un obstacle à son activité. Mais il y a bien sûr alors l'activité de l'esprit dans le temps actuel, dans l'économie présente, en rapport avec la collectivité des croyants. C'est alors ce que nous dit Acte 2, ce qui s'est produit au jour de la Pentecôte et que se plaît à développer l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 12, à savoir la constitution d'un ensemble lié par les éléments qui le constituent, liés ensemble par un lien divin et indestructible qu'est le lien du Saint-Esprit. Nous avons tous été baptisés, dit-il, d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec. C'est alors l'action et le résultat de l'action du Saint-Esprit, résultant de l'œuvre et de la glorification du Seigneur, et qui a trouvé sa réalisation au jour de la Pentecôte, selon la promesse qui avait été faite, selon ce qu'en témoignaient déjà les Écritures dans l'établissement des fêtes juives, et qui trouve sa réalisation en ce jour où le Saint-Esprit, sous une forme bien différente de celle sous laquelle il était descendu sur le Seigneur au Jourdain, parce que si en lui tout était pureté, quand il descend sur des êtres tels que nous, ici-bas, il y a des éléments qui lui sont contraires. Il doit descendre sous la forme de langue divisée, de feu, et avec un vent impétueux. Mais le Saint-Esprit descend donc pour opérer ce baptême qui, nous le répétons, n'a rien de commun avec le baptême de Jean le Baptiseur, n'a rien de commun avec le baptême chrétien que nous pratiquons, mais ce baptême d'un seul esprit pour être un seul corps, constituant sur cette terre un ensemble divin, le corps de Christ, duquel le Seigneur est la tête glorifiée dans le ciel, et duquel, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes, par la nouvelle naissance, devenus des membres individuels. Il n'est jamais dit qu'une assemblée locale est un membre du corps de Christ. Il n'est jamais dit qu'une assemblée locale est le corps de Christ. Elle en est l'expression dans le lieu où un tel rassemblement est réalisé. Le corps de Christ est constitué par tous les rachetés du Seigneur, où qu'ils soient, sur la surface de cette terre, à un instant donné. Le corps de Christ, en cet instant même, est constitué par tous les enfants de Dieu sur la face de cette terre. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a constitué, qui a appelé à l'existence, au jour de la Pentecôte, cet organisme divin, et non pas cette organisation, cet organisme divin dont la tête est glorifiée dans le ciel et dont les membres se trouvent sur la terre. Et nous sommes membres du corps de Christ, dit l'apôtre, chacun en particulier. C'est ce que Saul de Tarse a dû apprendre sur le chemin de Damas. En entendant la voix de celui qu'il croyait mort, qu'il arrête sur son chemin où il allait persécuter ceux qui sont de la voie du Seigneur, et il doit apprendre que Christ et les siens ne font qu'un. Je suis Jésus. L'une de ces deux fois où, de la gloire, le Seigneur fait entendre son nom de sa propre bouche. Il ne l'a pas prononcé sur la terre. Je suis Jésus. Et c'est à un tel homme, Saul de Tarse, arrêté sur le chemin de Damas, que sera accordé ce ministère extraordinaire ayant pour objet le corps de Christ, l'assemblée du Seigneur. Et c'est bien ce que le Seigneur a voulu lui communiquer au moment même où il l'arrête sur le chemin de Damas. En touchant à ceux qui m'appartiennent, tu touches à moi-même. Je suis Jésus que tu persécutes. Et c'est lui et lui seul qui parlera de ce corps de Christ, dont la première mention se trouve déjà dans les Romains, mais dont il donnera ce développement si remarquable que l'un audiencier a qualifié comme étant le cours de physiologie chrétienne, ce chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens. Et par grâce, par la grâce de Dieu, liés les uns aux autres, par ce lien du Saint-Esprit, réalisation de la figure que nous avions déjà dans le tabernacle par les traverses qui passaient d'un nez à l'autre et qui constituaient cet ensemble, nous sommes individuellement des éléments de cet édifice, des brebis du troupeau, des enfants du Père, des pierres de l'édifice et des membres du corps de Christ. Chacun placé comme lui l'a voulu, en vue de l'utilité et comme il lui plaît. Et voilà le travail du Saint-Esprit qui unit ensemble tous ces rachetés du Seigneur et qui sont sur la terre, étant appelés dans la conscience de la faveur qui leur est faite et la dépendance qui leur accordera de discerner la fonction qui leur est décernée, d'accomplir dans la fidélité et l'humilité la fonction que la grâce divine leur a accordée. Constitution du corps de Christ. Et si telle est une, si réelle est cette, l'existence de cette unité du corps de Christ, ou l'existence du corps qui est un, nous dit l'Écriture, nous avons à la proclamer. Nous proclamons ce travail de l'Esprit chaque premier jour de la semaine, lorsque, à la table du Seigneur, son assemblée est réunie, et que, participant au mémorial de ses souffrances et de sa mort, elle annonce à la vue d'un seul pain sur la table que, comme le dit l'apôtre, comme il y a un seul pain, il y a un seul corps. N'est-ce pas l'évocation tout à la fois de cette volonté de Dieu, de l'offrande du corps de Christ, de laquelle il résulte l'existence d'un tel corps, et du témoignage qu'en rend le Saint-Esprit? Et tel est le privilège, un doux privilège qui est en même temps un acte d'amour et d'obéissance de la part d'un enfant de Dieu, de proclamer la réalité de l'existence à la gloire de celui qui en est l'auteur du corps de Christ sur la terre. Ne confondons pas la réalité de l'existence de l'unité de ce corps avec la réalisation de la communion à la table du Seigneur. Ce sont deux choses absolument distinctes. Si l'on confond les deux choses, on ne peut pas comprendre pourquoi tous les croyants ne peuvent pas rompre le pain ensemble. Nous avons une exhortation dans l'Épître aux Éphésiens, à savoir que nous devons garder l'unité de l'Esprit par ce lien de la paix. Garder l'unité de l'Esprit. Nous n'avons pas d'exhortation selon laquelle nous devons garder l'unité du corps, car grâce à Dieu, elle ne dépend pas de la compréhension que nous en avons, ni de la réalisation que nous pouvons en saisir, ni de la fidélité de la fonction que nous pouvons accomplir dans ce corps. L'unité du corps est assurée par celui qui l'a créé, et nous ne sommes pas appelés à la garder, mais nous avons à garder l'unité de l'Esprit, réaliser ce qu'a produit cet Esprit, et en garder l'unité dans une manifestation qui réclame la paix. Car en dehors de la paix, il n'y a que confusion. La paix est en quelque sorte le premier effet le plus glorieux et le plus précieux que la croix de Christ nous a apporté. Il a fait la paix par le sang de sa croix, nous sommes en paix avec Dieu, il nous laisse même la paix et sa propre paix. Et la joie en est en quelque sorte un produit, car comment y aurait-il de la joie où il n'y a pas la paix ? Nous sommes appelés à garder dans une même pensée, dans un même sentiment, dans une commune jouissance, dans nos cœurs, le bénéfice et manifester les effets de ce que cet esprit a produit en constituant un seul corps. Garder l'unité de l'esprit qui est laissée alors à notre responsabilité quant à sa réalisation, quant à la jouissance commune que nous pouvons en avoir, et cela par le lien de la paix. Témoignage du Saint-Esprit. Mais nous devons évoquer quelques pensées en rapport avec le témoignage confié aux rachetés du Seigneur. Mais précédons peut-être quand même cette considération par la lecture d'un passage si précieux dans la première épître de Jean au chapitre 5, au verset 6. 1 Jean 5, verset 6. C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus le Christ, non seulement dans la puissance de l'eau, mais dans la puissance de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit et l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord pour un même témoignage. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est ici le témoignage de Dieu qu'il a rendu au sujet de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu l'a fait menteur, car il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Et c'est ici le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Nous savons que le dernier outrage à l'égard du Seigneur de la part de l'homme fut de lui percer le côté. Le Seigneur était mort. On ne lui a pas brisé les jambes, ce qui fut fait aux deux brigands, afin que l'Écriture soit accomplie qui dit « Pas un de ses os ne sera brisé ». Dieu veille sur le corps de son Fils sur la croix. Il ne permet pas que ce qui avait été dit en son temps à l'égard de l'agneau pascal soit démenti par un acte de l'homme à l'égard du corps de Christ, du corps physique du Seigneur. Mais on va percer, après que le Seigneur soit mort, on va lui percer le côté. Et c'est bien ce qui fut fait et qui démontre à quel point la haine de l'homme se manifeste. Le Seigneur est mort, on lui perce le côté. Que va-t-il en sortir? L'Écriture est là en Jean 19 pour nous donner la réponse. Il en sortit du sang et de l'eau. Le sang qui expie et l'eau qui purifie, c'est le résultat d'un Seigneur mort. Notre salut résulte d'un Seigneur mort. C'est ce qui est sorti de son côté. Remarquons seulement, pour qui veut considérer ces passages plus en détail, qu'il est venu, il nous est dit, par l'eau et par le sang. L'Esprit n'est pas mentionné ici. Il s'agit du Seigneur qui est venu comme homme, dans son humanité parfaite, pour mourir, par l'eau et par le sang. Le sang est présenté après l'eau, c'est son humanité. Mais lorsqu'il accomplit son œuvre et que le témoignage en est rendu, l'Esprit intervient au nombre des trois qui sont d'accord pour un seul et même témoignage, l'Esprit en premier, l'eau et le sang. Il y a de belles figures dans la parole qui nous entretiennent de ce qui est sorti du côté. Nous n'en citons que deux. Chacun peut les considérer. Chacun le sait aussi que c'est en quelque sorte la réalisation de ce que nous avons en figure dans la personne du premier homme qui, au sein d'un sommeil que Dieu lui a dispensé, la une des côtes est prélevée de son côté pour en faire celle qui sera eau de ses os et chair de sa chair. La femme du premier homme est sortie de son côté pendant le sommeil du premier homme. L'épouse du second homme est issue en quelque sorte du côté du Seigneur qui a accompli son œuvre et qui est dans le sommeil de la mort. Même le chandelier est là pour confirmer une telle pensée. Sa description mentionne plusieurs fois cette expression des branches qui sont tirées de lui, de chaque côté. L'Église de Christ prend naissance, on peut dire, dans la pensée de Dieu, d'un Christ qui a accompli son œuvre, qu'il a scellé lui-même comme Fils de Dieu, et dont le côté était percé et duquel est sorti le sang et l'eau. Et il est très beau de voir qu'à la fin de ces passages, nous avons le témoignage rendu par Dieu au sujet de son Fils, de celui qui est venu pour mourir. Il est venu par l'eau et par le sang. Il est venu comme homme pour mourir. Il a connu ces eaux profondes du jugement. Et c'est le témoignage de Dieu qu'il rend au sujet de son Fils bien-aimé, comme nous l'avons déjà vu samedi dernier, ce témoignage de Dieu à l'égard de son Fils et qui établit cette réalité glorieuse, à savoir qu'en lui seul est la vie. Une vie sans fin, une vie éternelle. Ce qui nous montre que si la vie éternelle part du racheté passé par la nouvelle naissance est le résultat de sa foi dans l'œuvre de Christ, elle est liée à une personne. Celui qui croit au Fils a la vie. Revenons au chapitre 15 de l'Évangile selon Jean pour évoquer seulement brièvement le témoignage confié au racheté du Seigneur dans l'économie présente. Jean chapitre 15, dernier verset. Et vous aussi vous rendrez témoignage parce que dès le commencement vous êtes avec moi. Et le passage cité déjà en acte 1, au verset 8, déjà lu, vous recevrez de la puissance le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. Qu'est-ce qu'un témoin? Il nous semble que, bien que ce soit sous l'Ancienne Alliance, nous avons une expression sous la plume de David au psaume 63, qui traduit la disposition d'un témoin au verset 8, « Mon âme s'attache à toi pour te suivre. » Tel doit être le désir du témoin, un attachement au Seigneur pour le suivre. Y a-t-il un autre motif pour lequel les croyants sont laissés sur la terre, si ce n'est d'être des témoins? Nous ne sommes plus de ce monde, nous n'avons pas d'espérance ici-bas, déjà David l'avait dit dans sa prière d'un chronique 29, mais le Seigneur nous laisse pour être des témoins, pour manifester quelque chose de celui à qui nous appartenons et duquel nous avons reçu la nature. L'Épître aux Corinthiens est là pour souligner ce caractère de témoin en nous déclarant que nous avons à être ici-bas la bonne odeur de Christ, la lettre de Christ connue et lue de la part des hommes. Le témoignage pendant l'économie actuelle est aussi à considérer sous les deux aspects, l'aspect individuel du témoin et l'aspect collectif d'un témoignage rendu sur la terre. Un témoin est donc un racheté du Seigneur. Aucun non-croyant, incrédule ou indifférent, celui qui n'a pas la vie de Dieu, ne peut être un témoin. Comme nous l'avons déjà exprimé, le témoin est quelque chose qui contraste avec son environnement. Et le témoignage, qu'il soit collectif ou individuel, contraste en tout point avec la scène de ce monde. Dans une scène de ténèbres, il évoque la lumière, ce que doivent être les croyants, des luminaires. Dans une scène de souillure, il est appelé à marcher dans la sainteté. Dans un domaine de mort, il est appelé à parler de vie, et nous pourrions multiplier les contrastes. Le témoin contraste avec la scène dans laquelle il est placé. Et ceci dans tous les temps et sous tous ses caractères. Quelle est la condition d'un témoin? Nous pourrions dire, le croyant est-il nécessairement un témoin vivant et visible? Il devrait l'être. Il y a des titres accordés aux rachetés du Seigneur qui sont acquis une fois pour toutes. C'est par exemple celui d'enfant de Dieu. On est enfant de Dieu par la nouvelle naissance, qu'on soit fidèle ou moins fidèle, qu'on marche d'une manière qui glorifie le Seigneur ou d'une marche qui le déshonore. Le croyant est un enfant de Dieu, même s'il est un enfant désobéissant. En Christ devant Dieu, le croyant est toujours saint, irrépréhensible. C'est la position du croyant. Mais il y a ce qui est lié à sa manifestation et à sa réalisation pratique. Est-il vraiment toujours, sommes-nous toujours des témoins visibles dans ce monde? Car nous rendons témoignage dans ce monde, à l'égard de ce monde. Nous sommes des témoins devant les anges. Nous sommes, nous dit l'Écriture, en spectacle aux anges. Et les anges sont instruits par les croyants, par l'assemblée, voire même ils désirent de regarder de près, dans ces choses qui ne sont pas leur partage. Ils s'y intéressent, mais ce n'est pas leur part. Et nous devrions sans doute nous poser la question, quel spectacle offrons-nous aux anges? Quelle mesure de témoignage présentons-nous à ce monde? Et nous sommes témoins laissés comme tels sur la terre, de la part du Seigneur et pour Dieu. Le mobile d'un témoignage sera nécessairement l'appréciation que nous avons de Christ et de son œuvre. C'est dans la mesure où sa personne occupe nos cœurs, où son œuvre a des effets pratiques et constants dans nos vies, que nous serons des témoins selon sa pensée. Si nous pensons à Lot, était-il visiblement un témoin à Sodome? Il a perdu tous les caractères d'un témoin, et pourtant il était juste. Il faut venir jusque dans l'épître de Pierre pour apprendre que c'était un juste, un justifié. Néanmoins, la place qu'il occupe, la fausse route qu'il a suivie, son installation dans ce monde et le profit qu'il en tire, fait qu'il perd son caractère, il en est dépouillé. Il est dépouillé aussi d'autorité morale, aussi bien dans le sein de sa famille que vis-à-vis des gens du monde. On peut bien penser que Démas, qui a aimé le présent siècle et qui a laissé le chemin de la sainteté et de la fidélité, a vu un caractère de témoin bien altéré. Il y a donc une vigilance, il y a donc un exercice permanent qui se rattache à la manifestation du caractère de témoin. Et qu'est-ce qui caractérisera précisément le témoin? C'est la fidélité. Qu'il s'agisse du témoignage individuel, qu'il s'agisse du témoignage collectif, c'est la fidélité qui en constitue le vrai critère. Mon âme s'attache à toi pour te suivre. Fidélité à la parole, premièrement bien sûr au Seigneur. Fidélité, attachement à la parole dans un désir d'une humble obéissance, d'une conformité de nos voies à l'enseignement qu'elle nous dicte. Pour cela, il faut la connaître. C'est bien la raison pour laquelle Paul, dans sa prière de Colossiens 1, peut dire ou souhaiter que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards. Pour marcher et pour plaire, il faut connaître la volonté de celui à qui nous désirons plaire et celui que nous désirons suivre. Donc pour cela, il faut être rempli de la connaissance de sa volonté. Peut-être sommes-nous de nos jours plus particulièrement exposés à négliger cette nécessité de la connaissance. Non pas la connaissance pour nos intelligences qui enflent et qui peut être un piège, mais cette connaissance qui est accompagnée d'une appréciation de cœur à la communication des pensées de Dieu et animée d'un esprit de soumission et un désir d'obéissance. Alors cette connaissance de sa volonté conduit l'âme qui est animée de telles dispositions à marcher dans le chemin qui le glorifie pour lui plaire, non pas occasionnellement ou sur certains points, mais à tous égards. Nous voyons à quel point, dans le cas de Lot, et on peut multiplier les exemples, des choix dans la vie chrétienne peuvent être déterminants pour accorder à un croyant d'être un témoin ou de perdre ce caractère. Quel parfum répandons-nous dans ce monde? Vous êtes, dit l'apôtre, la bonne odeur de Christ. Ce parfum du nom de Jésus répandu dans ce monde. Une lettre connue. Pour être connue et plus encore pour être lue, il faut qu'elle soit lisible. Il faut qu'elle soit visible. Vase à honneur, nous dira l'apôtre Paul en écrivant à Timothée. Quelle est la condition d'un vase à honneur? Si quelqu'un se retire. Séparation. Ce mot qu'on aime peu aujourd'hui. Et pourtant, c'est le deuxième verbe actif dans la parole. Après qu'il nous soit dit que Dieu a créé, il a commencé par séparer. Il sépare les choses qui ne vont pas ensemble, la lumière et les ténèbres. Nous avons dès le départ, en création déjà, cette activité divine qui sépare les éléments qui ne vont pas ensemble. Il crée et il sépare. Il nous a créés, nous sommes créés comme nouvelle création, appartenant au Seigneur, et nous sommes invités à marcher dans un chemin de sainteté pratique, En Christ, nous sommes saints, irréprochables, irrépréhensibles. Pas d'effort à fournir. Mais nous sommes appelés à marcher dans une sainteté pratique, et cela implique des choix, cela implique des choses à laisser, mais toujours compensées par des choses infiniment plus précieuses. Et nous pouvons bien inviter la jeunesse, avec beaucoup d'insistance, accompagnée de la même affection, de veiller quant aux choix qui sont faits. Ils sont souvent déterminants et peut-être pour la vie entière. Les exemples sont multiples dans la parole. Ne pensons pas qu'il n'y a que le choix entre la mort et la vie, entre la malédiction et la bénédiction, ces choix de Deutéronome qui conditionnent notre état de croyant ou de non-croyant, c'est le choix fondamental, mais après, comme croyant, à chaque pas, il faut choisir. Il y a toujours un vase à honneur, pas nécessairement. Le croyant qui déshonore son maître, dont la vie est la négation de la nature divine à laquelle, par la foi, il appartient et par la nouvelle naissance à laquelle il a amené, honore-t-il celui qui est l'auteur de sa vie nouvelle? Si quelqu'un, c'est un appel individuel, comme pour le salut, quiconque pour le salut, si quelqu'un pour la fidélité, se sépare, non pas de celle-ci, la grande maison, on ne peut pas sortir de la chrétienté, nous y sommes. Mais les fidèles ne sont pas la chrétienté, mais les fidèles sont dans la chrétienté. Si quelqu'un se sépare des personnes qui déshonorent le Seigneur, des vases à déshonneur, il sera un vase honneur, duquel le Seigneur dans sa grâce pourra se servir, il sera utile au maître. C'est un témoin. Mais nous avons l'aspect du témoignage collectif, si on nous permet encore quelques minutes. Nous en avons déjà parlé ici même en rapport avec le sujet de l'Assemblée, sauf erreur. Témoignage collectif, qui implique aussi la séparation. Nous nous souvenons de ces cercles concentriques qui ont toujours Christ pour centre. Premièrement, la profession chrétienne, qui constitue le christianisme dans lequel nous entrons par le baptême, mais qui n'est pas signe de vie, qui n'a aucun effet salvateur. Puis nous avons à l'intérieur un deuxième cercle, en quelque sorte, le corps de Christ, l'Église du Seigneur, l'Assemblée dans son sens général, où il y a des rachetés, tous les rachetés du Seigneur, que des rachetés du Seigneur, qui se trouvent dans le grand cercle. Et à l'intérieur de cet ensemble qui a la vie, il y a alors les croyants qui ont véritablement et de cœur le désir de glorifier le Seigneur. Sommes-nous au nombre de ceux-ci, Dieu le veuille, qu'il y ait véritablement, dans le profond de nos affections, et ceci dès le jeune âge, sans perte de temps, ce désir d'être qualifié par le Seigneur de lettre lue, de parfum de Christ, de témoin du Seigneur. Le témoin de Christ n'est pas appelé à vivre seul, mais pour qu'il se rassemble avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La fidélité n'a jamais rendu quelqu'un populaire. Et nous savons bien que plus un croyant est fidèle, plus il sera isolé. L'apôtre a terminé son chemin seul. Il y avait un fidèle avec lui, Luc seul est avec moi. Mais il peut dire, le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié. Le témoin fidèle par excellence n'a-t-il pas connu la solitude comme personne d'autre? Néanmoins, ceux qui ont à cœur d'invoquer le Seigneur d'un cœur pur, par des affections sans mélange que sa grâce seule peut produire dans les cœurs, sont appelés alors à se trouver ensemble et à constituer ce témoignage. Un témoignage collectif dont quelques caractères nous ont déjà été évoqués par ce passage de la fin de Malachie où, à la fin de l'économie légale, nous voyons ce qui caractérisait ces témoins. Ils pensaient à son nom. Ils parlaient l'un à l'autre. Et pour Dieu, qu'était-il? Ce trésor qui se distingue de tous les autres trésors qu'il possède, un trésor particulier. Et le regard de son cœur est sur eux. Il a devant lui les noms de ses fidèles écrits dans un livre. Et il les assure de sa protection. Nous ne pouvons plus évoquer les caractères du témoignage collectif. Nous les laissons à la considération de chacun. Mais nous savons bien qu'au nombre de ceux-ci, il y a premièrement le rassemblement autour du Seigneur. C'est ce qui constitue le caractère fondamental de l'expression du témoignage de Dieu sur la terre confié aux rachetés du Seigneur. Être rassemblé autour de lui et en son nom. Nous sommes peut-être très accoutumés à cette déclaration, sans peut-être mesurer ce qu'elle implique, ce qu'elle requiert, mais aussi ce qu'elle accorde comme bénédiction. Être autour de lui, ce sera du reste notre condition éternelle. C'est une anticipation de notre éternel et céleste partage. Être autour de lui, réunis en son nom. C'est chez lui que nous sommes. Nous sommes à l'écoute de sa voix, car il est maître de la maison, il est maître de son assemblée, chef de son assemblée. Et tout ce qui est fait dans cette maison doit pouvoir porter en bonne conscience les saints droits du nom de celui qui en est le maître. C'est ainsi que l'assemblée lit et délie. Elle le fait au nom du Seigneur. Et le faisant en ce nom-là, la décision prise par l'assemblée au nom du Seigneur est nécessairement ratifiée dans le ciel. Tout ce que vous lirez. D'où la responsabilité et la vigilance que réclame toute décision d'assemblée parce qu'elle est prise au saint et glorieux nom du Seigneur. C'est un des caractères d'un témoignage qu'il honore. La parole de Dieu, nous avons le privilège de la posséder, de la lire et d'en connaître quelque chose. Tout est grâce. Mais la parole de Dieu, comme autorité sur nos cœurs et dans la maison de Dieu, n'est-elle pas un des caractères également de ce témoignage collectif? Quelle est la mission confiée à l'Assemblée? Colonne et soutien de la vérité. Il n'est jamais dit que l'Assemblée est la vérité. Mais elle en est la porteuse. Elle la possède. Ta parole est la vérité. Elle a un esprit de vérité. Elle appartient au Dieu qui est vérité. Elle doit être la colonne et le soutien de la vérité. Dès l'instant où l'Assemblée délaisse la vérité au profit des pensées des hommes, elle perd son caractère de témoignage. Il n'y a pas d'autre guide, il n'y a pas d'autre lampe pour illuminer le chemin individuel et collectif, il n'y a pas d'autre autorité que la parole du Seigneur. C'est un deuxième caractère, mais il y en a beaucoup d'autres. La sainteté. Nous avons parlé de la sainteté individuelle, combien nécessaire et sous de multiples aspects. Sainteté dans nos pensées, sainteté dans nos paroles, sainteté dans nos actes, sainteté dans notre marche, sainteté quant à nos corps. Mais dans l'Assemblée, la sainteté. La sainteté est à la mesure de celui qui est saint. Et combien nous avons à être pénétrés des saints droits du Seigneur. Dans son Assemblée, il n'y a rien d'autre qui puisse agir que son Saint-Esprit. Tout est saint. Et chacun est frappé en la lecture des descriptions du tabernacle le nombre de fois qu'il est dit « c'est une chose très sainte ». Et nous avons bien à être pénétrés de cette sainteté qui sied à la maison de Dieu et qui en constitue le caractère. Notre Dieu est saint, le temple de Dieu est saint et tel vous êtes. Et si la sainteté doit être maintenue dans l'Assemblée, au prix souvent de douloureux exercices, c'est parce que l'Assemblée est consciente qu'elle le doit à celui auquel elle appartient et qu'elle le doit à celui qui est le maître de sa maison. C'est ainsi que l'apôtre peut dire à son enfant Timothée comment il doit se conduire dans la maison de Dieu. La sainteté pratique, nous le répétons, de caractère individuel et qui a son reflet dans le caractère de la vie d'Assemblée. Le Saint-Esprit, c'est un caractère du témoignage, c'est-à-dire que dans la maison de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui a le droit d'agir. Nous avons deux puissances en nous-mêmes. La chair, si nous ne la mettons pas où Christ l'a placée, c'est-à-dire dans la mort, elle se manifeste. Mais elle n'a ni droit ni place dans la vie du témoin individuel, pas davantage dans la vie du témoignage collectif. La seule puissance autorisée à agir, c'est le Saint-Esprit, quelle que soit la nature de la vie de l'Assemblée ou de l'exercice d'une fonction remplie dans l'Assemblée. Qu'il s'agisse de chanter ou de prier, nous l'avons déjà vu ce sujet-là, qu'il s'agisse de l'exercice du ministère, qu'il s'agisse de l'adoration, tout est le produit de l'Esprit. Ce qui exclut du reste toute organisation humaine. Un autre caractère du témoignage collectif. le souvenir de la mort du Seigneur, la participation au mémorial qu'il nous a laissé est un caractère du témoignage sur la terre. Et en même temps, nous en évoquons un autre, à savoir que nous attendons son retour. Le prix qu'a pour un témoignage, ou l'expression de son témoignage dans un rassemblement de croyants, de la mort, le prix qu'a la mort du Seigneur, qu'il se plaît à annoncer dimanche après dimanche, témoigne d'un caractère de son témoignage, et cela dans l'attente du retour. Nous évoquons tout à la fois la mort du Seigneur et nous appelons de nos cœurs son prochain retour. Quel caractère de passager qui évitera ou qui devrait avoir pour effet de ne pas enfoncer nos racines dans la terre de ce monde. Le sentiment que la gloire du Seigneur est engagée dans sa maison est également un caractère important du témoignage collectif. Tout doit avoir en vue la gloire de Christ. Est-il glorifié dans ma vie? Est-il glorifié dans la vie de son assemblée? Nous savons bien que la gloire de Christ est toujours liée à l'habitation de Dieu, à l'habitation du Seigneur dans sa maison, à lui gloire dans l'assemblée. Et l'espérance est aussi, l'espérance chrétienne est un caractère de son témoignage. Il est là, laissé sur la terre, pour le temps que Dieu le jugera bon, et il mettra fin au jour où la bienheureuse espérance trouvera sa glorieuse et définitive réalisation. Nous sommes là, étrangers, forains, voyageurs. Il y a bien d'autres caractères auxquels on peut adjoindre aussi, nous ne les mentionnerons pas, mais les ressources, car nous pourrions dire, après l'évocation des caractères d'un témoignage collectif, mais qui est suffisant pour ces choses? Mais la réponse n'est-elle pas celle qu'a pu donner l'apôtre, je puis toute chose en celui qui me fortifie. Lui seul peut accorder à de si faibles témoins d'être les manifestations d'un témoignage correspondant à sa pensée. Que le Seigneur nous accorde et le désir et la grâce d'en manifester les effets jusqu'au jour de son retour. Nous citons seulement qu'après l'enlèvement des saints et avant l'établissement du royaume, il y aura un nouveau témoignage sur la terre, qui n'a pas du tout le même, qui n'est pas lié directement au témoignage actuel. Le Seigneur va venir, il enlèvera les saints de l'Ancien Testament, comme aussi son assemblée, son église, pour l'éternelle joie de son cœur, où il goûtera dans sa glorieuse maturité du fruit du travail de son âme. Mais après cela, nous savons par d'innombrables portions de la parole que déferleront sur cette terre les jugements annoncés et qui frapperont la terre tout entière pendant une période relativement courte qui s'étendra entre la venue du Seigneur que nous attendons et son apparition en gloire qui précédera l'établissement du règne millénaire. Et pendant cette période dite apocalyptique, un résidu se constituera, non pas par des croyants actuels, puisqu'ils ne seront plus sur la terre, non pas par des hommes qui se sont repentis de ne pas avoir reçu l'évangile de la grâce, car ceux-là seront les victimes d'une énergie d'erreur pour croire au mensonge et ne pourront plus être sauvés, mais par ceux qui, se reconnaissant coupables, n'ayant pas bénéficié de la proclamation de l'évangile de la grâce, reconnaîtront que Christ était bien le Messie et le Sauveur qui a été rejeté, et se lamentant sur lui, reconnaissant la faute et le péché commis, le recevront suite à la proclamation d'un évangile appelé l'évangile du royaume, qui a en vue le royaume terrestre, c'est-à-dire le règne millénaire. Mais comme pour tout salut, la base, c'est la repentance. Et l'action de l'esprit, ce ne sera plus l'esprit habitant sur la terre dans des croyants, mais l'esprit agissant comme pluie de la dernière saison, œuvrera pour produire ce travail de repentance et amener à l'existence des rachetés qui, se repentant, constitueront ce résidu en diverses catégories. Il y aura d'une part le résidu des Juifs, qui se divise lui-même en deux, résidu des deux tribus de Juda et Benjamin à Jérusalem, qui passeront par la grande tribulation, et le résidu des 10 tribus qui sont dispersées et qui le seront jusqu'à la fin de la grande tribulation parmi les nations. Et à ce résidu d'Israël se joindra le résidu des nations, puisque l'évangile du royaume sera prêché non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi les nations. Et ces fidèles, qui souvent payeront leur fidélité du prix de leur vie, il y aura beaucoup de martyrs, constitueront un témoignage sur la terre qui a un grand prix pour le Seigneur et qui est marqué par une fidélité particulière. Il nous suffit de lire un verset en Apocalypse 14, au chapitre 14, au verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ceux-ci ont été achetés d'entre les hommes, des prémices à Dieu et à l'agneau, et il n'a pas été trouvé de mensonge dans leur bouche, ils sont irréprochables. C'est peut-être le plus beau certificat, si l'on peut s'exprimer ainsi, qui nous soit donné dans l'Écriture à l'égard de croyants. Ils sont irréprochables sur le plan pratique. Nous sommes irréprochables, irrépréhensibles en Christ devant Dieu. Mais quant à notre marche, pourrait-il être dit de nous, nous sommes irréprochables? Mais il est dit de ceux-là qui n'existent pas encore sur la scène, mais qui se lèveront au jour des persécutions et d'une souffrance qui accompagnera leur fidélité, ils sont irréprochables. Marqués par l'attachement, marqués par la sainteté, marqués par la fidélité. Nous retrouvons ce que nous avons vu. Mon âme attache s'attache à toi pour te suivre. Ils suivent l'agneau où qu'il aille. Pensons au fait que persécutés, chaque pas de fidélité les exposera à la mort. Mais cette crainte et cette souffrance ne les conduira pas, ne les incitera pas à avoir un chemin dévié. Ils suivent l'agneau où qu'il aille. Nous devons mettre un terme en souhaitant que l'évocation, combien imparfaite et incomplète, de ce témoignage de Dieu, rendu au cours des économies, au cours des siècles, par des hommes et des peuples, appartenant à des conditions et bénéficiant de mesures de révélation très diverses, que cette évocation nous démontre, si telle était la nécessité, que dans sa bonté fidèle, Dieu ne se laisse pas sans témoignage, il l'a dit. Et ce témoignage accompagne toute la période de la responsabilité de l'homme sur la terre. Que dans sa grâce, avec ses ressources qui ne sont nullement les nôtres, mais que sa bonté produise dans nos cœurs un profond désir d'être trouvé, approuvé de Dieu. C'était ce que l'apôtre demandait à son enfant Timothée. Exerce-toi à être approuvé à Dieu. Être trouvé dans un chemin qu'il peut sceller de son approbation et par conséquent de sa bénédiction. C'est la part du témoin et qui nous donne d'en manifester quelques caractères pendant les quelques pas que peut-être nous serons appelés à fournir sur cette terre jusqu'au jour alors où le témoignage confié à l'homme aura pris fin. Il n'y aura plus de témoignage à rendre lorsque nous serons dans la maison du Père. Il n'y aura plus d'éléments contraires et opposés à ces témoignages qui nécessiteront la présence de témoins sous ce caractère-là. Mais l'Esprit, qui est toujours éternellement avec nous, produira l'éternelle adoration, renouvellera dans nos cœurs les accents d'un cantique nouveau et toujours nouveau à la gloire de celui qui nous a été accordé faiblement, mais de suivre, et de voir des yeux de nos corps glorifiés comme étant le témoin fidèle.